Et maintenant, c'est l'heure du rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Oui, bonjour. Donc, les rendez-vous de midi avec Stéphane Simonin de Hors les Murs. Donc, directeur de Hors les Murs. Camilla.
Hors les Murs, donc, c'est le Centre National de Ressources des Arts de la Rue et de la Piste. Et c'est un centre qui offre des activités d'information, de documentation, de formation, d'expertise, d'études et d'édition autour des arts de la rue et du cirque. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, voilà, on est aussi avec le directeur de Hors les Murs.
Vous pouvez nous faire peut-être un petit résumé de ces termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes?
Tout simplement, en fait, Hors les Murs a été créé par le ministère de la Culture pour accompagner le développement des arts du cirque et des arts de la rue. Donc, on fait tout pour faire reconnaître le cirque comme un art à part entière. Et pour ça, on a un certain nombre d'activités. On a un centre de documentation national. Et on a un certain nombre de publications aussi. C'est nous qui éditons le magazine Strada, qui parle de la création hors les murs, les arts de la rue, les arts du cirque, les arts dans l'espace public. Et puis, on recense tous les professionnels qui travaillent dans les arts du cirque, avec une base de données, un site internet avec beaucoup d'informations, qui s'appelle horslesmurs.fr, tout simplement.
Alors, comment, puisque vous êtes une sorte de centre nerveux de tout ce qui se passe autour du cirque, enfin, ouais, qui accompagne le cirque au niveau de la diffusion, de la communication, alors comment va le cirque aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut dire une question comme ça?
Bien sûr, le cirque se porte bien. Avec un petit peu de recul, on va se rendre compte que pendant ces 30 dernières années, il y a eu un renouvellement incroyable des formes de cirque. Et c'est vrai qu'il y a eu comme ça des périodes dans l'histoire du cirque depuis deux siècles, avec des hauts et des bas. Et là, on peut dire qu'on est dans une effervescence créatrice, et c'est une période très faste pour le cirque. Alors bien sûr, ça s'est accompagné par la multiplication du nombre de compagnies, l'organisation d'événements. Et aujourd'hui, c'est pas facile pour toutes les compagnies parce que justement, elles sont nombreuses et qu'il y a peut-être pas assez de moyens de diffusion et d'accueil des compagnies par rapport au nombre des artistes. Donc, ça se porte bien. Il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de vitalité, mais les limites, c'est que de temps en temps, les compagnies trouvent pas assez de dates pour jouer.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'accentue depuis quelques années, quelque chose que vous constatez, à la fois pour le cirque et pour les arts de la rue?
Alors oui, nous, on regarde ça de très près, parce que c'est important, les équilibres économiques, les compagnies doivent pouvoir vivre de leur travail, et on s'aperçoit effectivement que les spectacles tournent beaucoup plus que les spectacles de théâtre ou de danse contemporaine. Donc ça, c'est une chance, c'est une force du cirque de pouvoir attirer un public important et de tourner beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas assez de dates pour vivre ou pour survivre. Et ça a une influence aussi sur les esthétiques, sur les formes des spectacles, parce que les compagnies ont tendance du coup à s'orienter vers des petites formes. Donc, une des évolutions importantes de ces 10 dernières années, c'est la rareté des grandes formes de spectacles de cirque pour aller plutôt vers les petites formes. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution aussi, c'est que les spectacles se font de plus en plus en salle. Donc, le chapiteau, qui était un petit peu le symbole du cirque après la guerre, devient une exception. Donc aujourd'hui, nous, on voit qu'il y a à peu près 20% seulement des compagnies qui proposent et qui tournent leurs spectacles sous chapiteau. Donc c'est vrai que c'est un changement majeur. Le chapiteau devient un choix et n'est plus du tout
la norme.
La norme.
Et alors, et vous constatez, parce que là on parle donc du cirque, mais est-ce que vous faites le même constat pour les arts de la rue que vous observez aussi finalement de près?
Alors, ce sont deux secteurs. D'abord, il faut rappeler qui sont qui ont une histoire commune, puisque dans les années 70, les arts de la rue et les arts du cirque, ça se passait dans la rue, et le renouvellement des formes artistiques, on peut citer des compagnies comme Bartabas, le Cirque Amour qui est devenu le Cirque Plume, etc. Ce sont des artistes qui sont allés dans la rue. Donc le renouvellement des arts de la rue, le renouvellement et l'apparition du nouveau cirque, c'est vraiment une histoire commune au départ. Après, ça s'est un petit peu séparé, mais ce sont des secteurs qui ont effectivement des cousinages, des passerelles avec des artistes qui vont de l'un à l'autre, etc. Et on retrouve un peu les mêmes symptômes dans les arts de la rue, à la fois une multiplication du nombre de compagnies, une multiplication des festivals, mais aussi une difficulté, malgré tout, à avoir suffisamment de plateformes de diffusion pour tous les spectacles qui sont créés chaque année.
Est-ce que le cirque, est, comme vous avez été créé avec des soutiens de l'État, est-ce que le cirque est le parent pauvre des arts du spectacle ou pas? Ou alors est-ce qu'il est vraiment aidé, subventionné à une hauteur qui vous paraît bien ou juste?
C'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on peut reconnaître au ministère de la Culture d'avoir, dès les années 80, remarqué la qualité artistique qui apparaissait au niveau du nouveau cirque et qui a assez rapidement accompagné un certain nombre de compagnies, qui a créé le Centre National des Arts du Cirque et qui a soutenu un certain nombre de festivals. Donc il y a eu une politique assez précoce. Après, le développement a été tellement important qu'aujourd'hui, non, on peut dire assez objectivement que ce secteur est moins subventionné que le secteur du théâtre, de la danse contemporaine et de la musique. Donc il y a encore beaucoup de soutien nécessaire pour que ce secteur soit pris en charge au même titre que les autres disciplines du spectacle vivant.
Il est moins subventionné alors qu'il coûte plus cher. Un chapiteau, une équipe de théâtre, une troupe de théâtre, de cirque, ça coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus long dans le temps aussi. Et dans les, les budgets ne sont pas les mêmes en plus. Donc.
C'est vrai. Un spectacle de cirque met plus longtemps à se créer qu'un spectacle de théâtre. En plus, c'est vrai que le cirque est souvent constitué autour de collectifs ou de quelques artistes et donc ils ont un projet de compagnie à long terme. Donc ça, ça crée des frais de fonctionnement, alors qu'un spectacle de théâtre, c'est souvent un metteur en scène isolé qui constitue une troupe momentanément et qui crée un spectacle. Là, on a affaire à des compagnies
les
qui doivent
sont pas les mêmes,
vivre
ouais.
dans le temps, donc les temps ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai aussi que je donne juste un chiffre qui est quand même assez révélateur. Au niveau du ministère de la Culture, le cirque reçoit 1,5% des subventions du spectacle vivant. Ce qu'on appelle spectacle vivant, c'est théâtre, musique, danse, tous les spectacles où il y a des artistes vivants en scène. Donc, c'est vrai que ça reste quand même très marginal par rapport au théâtre, et ne parlons pas de l'opéra, de la musique classique, etc.
Et donc, finalement, vous faites un constat assez dur de cette période. On a connu, et on sent ce souffle encore sur un festival comme Circa, une période un peu presque un âge d'or du cirque. Est-ce à dire que là, on est sur une baisse, je sais pas, comment on pourrait définir ce temps qu'on vit en ce moment?
C'est un petit peu un temps d'ajustement, en fait, puisqu'en fait, on a aujourd'hui 400 compagnies de cirque en France. Quand je dis 400 compagnies, c'est des structures professionnelles qui se sont créées souvent avec une sous forme associative. Alors quelquefois, elles ne comportent que un ou deux artistes, mais 400 compagnies, c'est énorme. Et on a un certain nombre d'outils spécifiques au cirque, les pôles nationaux des arts du cirque. Circuit est un pôle national des arts du cirque. Un certain nombre de festivals. Donc c'est vrai que les outils sont là, mais peut-être que c'est les autres outils du spectacle vivant, les théâtres, etc., qui n'accueillent peut-être pas assez de cirques, et notamment de cirques sous chapiteau, pour faire vivre l'ensemble de ce secteur. Donc, c'est pour ça que je disais que le secteur est en train de s'ajuster avec plus de spectacles en salle, plus de petites formes, peut-être certaines compagnies qui vont repartir avec le chapiteau sur la route et qui vont essayer de proposer un spectacle très grand public. Tout ça va créer, on va dire, des adaptations de part et d'autre. Donc on est dans cette phase-là d'adaptation, d'ajustement. Peut-être effectivement que certaines compagnies auront du mal à survivre. Donc c'est un petit peu une loi concurrentielle finalement. Et ce sont les compagnies qui proposeront les meilleurs spectacles, qui attireront le plus de monde, qui seront les plus nouvelles, etc., qui vont s'en sortir. Peut-être que d'autres auront plus de mal.
Quand on voit le nombre de chapiteaux qu'il y a sur le festival Circa, et de chapiteaux parfois immenses comme celui d'Épicycle, on se dit quand même que les subventions sont là aussi pour subventionner ces spectacles. Je pense qu'ils ne fonctionnent pas qu'avec de l'argent public. Donc il y a quand même des investissements privés ou des banques qui font confiance pour quand même permettre ça, parce que je pense que les compagnies n'ont pas les fonds pour investir sur une tournée, sur un chapiteau aussi grand que par exemple Épicycle. Comment ils cherchent leur argent, leur...
Vous savez, investir dans un chapiteau, c'est un choix très fort, parce que ça entraîne aussi un choix de vie. Il faut choisir l'itinérance, et donc c'est souvent un choix qui est porté par la compagnie. Alors, elle peut trouver des aides, mais le plus souvent, on s'aperçoit que c'est souvent la compagnie qui fait des économies et qui va investir elle-même son propre argent dans le chapiteau. On a des exemples même plus anciens. La compagnie très connue des Arceaux, effectivement, a fait des prêts importants à la banque en leur nom personnel pour pouvoir dégager les financements pour s'investir dans un chapiteau. Donc c'est vraiment un choix important et très généralement bon. ça nécessite aussi de l'argent apporté par la compagnie elle-même.
Alors là on commence à parler de production, de spectacle. Vous êtes hors les murs présent aussi au festival pour permettre à des compagnies de venir présenter des projets et pour éventuellement trouver des financements, des coproducteurs. Enfin, quel est votre rôle dans ces présentations?
Alors on co-organise avec le festival depuis quelques années ce qu'on appelle des présentations de projets. Alors le principe, c'est tout simple, ce sont les compagnies qui viennent parler de leur projet de création en cours. Parce qu'il faut savoir qu'un projet de création, ça met généralement au moins 2 ans à se préparer, à voir le jour, avant que le spectacle puisse être présenté. Donc dans cette phase-là de recherche, d'expérimentation, de répétition, la compagnie a besoin d'être accueillie en résidence par des lieux, a besoin de soutien financier par des coproducteurs. Et donc, voilà, le but de ces présentations de projets, c'est de permettre aux compagnies de présenter aux programmateurs, aux producteurs, à tous les partenaires et soutiens possibles de leur création, le contenu de leur projet, quelle va être la forme du spectacle, l'intention, le sujet, etc. Enfin bon, donc c'est un exercice pas facile, surtout qu'elles ont que 10 minutes, 8-10 minutes pour présenter leur projet. Et ce matin, donc depuis 9h30, il y a des compagnies devant des programmateurs et des professionnels qui présentent leur projet. Ce matin, il y avait une vingtaine de compagnies, et ça continue encore jusqu'à 13h, qui ont présenté rapidement, donc souvent avec des images, quelquefois avec des petites démonstrations, les projets sur lesquels elles travaillent en ce moment.
Alors comment se fait le choix des compagnies qui viennent présenter leur projet, d'une part, et d'autre part, le choix aussi des professionnels qui les regardent et qui discutent?
Alors, par principe, on ne sélectionne pas les compagnies. On donne la possibilité à toutes les compagnies de proposer leur projet. Alors, c'est vrai que la condition, c'est que ce soit bien un projet de création. Elles ne viennent pas présenter un spectacle qui soit déjà créé. C'est vraiment la phase de recherche de coproduction qui nous intéresse. Donc là, il y a effectivement une ouverture à tous les projets possible, parce que vous savez, il y a des projets de compagnies très jeunes qui deviennent des projets phares, très intéressants, donc il n'y a aucune raison de sélectionner. Et c'est ouvert aussi à tous les programmateurs et professionnels qui le veulent. Donc voilà, c'est un principe de base. Alors c'est vrai que du coup, il y a 2 matinées ce matin et demain matin, et au total, c'est plus de 45 compagnies qui vont présenter leurs projets. ça fait beaucoup de monde, mais en même temps, ça permet à tout le monde de pouvoir communiquer sur ces projets en cours.
Et avoir sa chance.
Vous l'avez donc expérimenté là depuis quelques années. Quel bilan vous en tirez là après quelques années d'expérimentation? Ça a apporté ses fruits, j'imagine que oui, vu que ça continue, mais qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors déjà, ce qui est assez positif, c'est qu'on voit que les compagnies, avec le temps, elles commencent à mieux connaître l'exercice, parce que c'est pas évident de présenter un projet sur lequel on est en train de travailler, on connaît pas encore vraiment la finalité du projet, il y a une phase de recherche, on sait pas où on va, etc. Donc au début, c'est vrai que certaines compagnies avaient du mal à vraiment mettre en valeur les atouts du projet. Là, l'exercice est mieux maîtrisé, et c'est important, puisqu'en fait aujourd'hui une compagnie, elle ne doit pas limiter son travail à la représentation, et à aussi tout un certain nombre de compétences qu'elle doit développer pour porter un projet de compagnie, et ça passe aussi par la capacité à présenter son projet, à vendre. Il faut pas avoir peur du mot aussi, une idée. Et donc voilà, c'est un exercice qui est aussi bon pour les compagnies de s'habituer à présenter de manière synthétique et en donnant l'envie un projet de création.
Effectivement, c'est un exercice complexe, parce que se vendre sans vendre son âme, c'est un peu ça la position des compagnies, j'imagine.
Mais ce qu'elles vendent, c'est le projet artistique, donc c'est l'idée, c'est le propos, c'est la manière dont elles ont envie de le mettre en forme, etc. Donc on est vraiment sur l'artistique là. Après c'est les programmateurs, les coproducteurs qui peuvent discuter avec les compagnies pour savoir ce dont elles ont besoin en termes de moyens, en termes de lieux de travail, etc. Donc ça, c'est la phase plus d'accompagnement économique du projet. Mais là, les réunions et les rencontres de présentation de projet, on est sur une présentation du projet artistique.
On va faire une petite pause musicale et puis on parlera d'un livre que vous avez co-édité et qui sera présent ici sur le festival de Circa.
Un coup de cœur, un coup de gueule.
The number you have dialed has been changed. The new number is...
Le répondeur de Radio Circa.
Please note, the new number is...
Au 05 62 61 65 50. 05 62 61 65, 50.
Well, those blue things.
103.5, c'est la fréquence de Radio Circa. Nous sommes toujours avec Stéphane Simonin, le directeur d'Or les Murs. Et nous allons maintenant parler d'une autre activité d'Or les Murs qui propose ici, pendant le festival Circa, un livre donc, qui vient juste d'être édité, hein, le panorama contemporain des arts du cirque. Et quelle était donc l'idée de faire de se lancer dans l'édition pour Or les Murs?
Alors nous déjà, on travaille dans l'édition dans la mesure où on édite des guides professionnels, on édite un magazine qui s'appelle Strada, qui est trimestriel, qui parle entre autres du cirque. Donc on est déjà éditeur dans l'âme.
D'accord.
Et puis de temps en temps, c'est vrai qu'on coédite des ouvrages avec d'autres éditeurs qui ont besoin d'un accompagnement sur des ouvrages précis. Et là, le panorama contemporain des arts du cirque, c'est vraiment un événement pour nous, c'est un projet vraiment important, c'est un gros livre, un beau livre qui fait plus de 600 pages. Et l'originalité, c'est jusqu'à présent, il y avait soit des livres assez généraux sur le cirque, soit ce qu'on appelle des monographies par compagnie. Et là, c'est vraiment le paysage des arts du cirque d'aujourd'hui qui est présenté. Et ça va s'appuyer sur 70 compagnies différentes d'aujourd'hui, des compagnies qui comptent dans le paysage du cirque. Et chaque compagnie bénéficie de 5-6 pages pour présenter son projet artistique avec une description par les auteurs de l'ouvrage, donc, qui sont Véronique Klein et Pierre Hiverna, voilà, qui ont fait ce gros travail donc, de lien avec les compagnies pour présenter l'ensemble de ces démarches artistiques. Et donc, on a un vrai paysage du cirque d'aujourd'hui. Et il faut savoir, et ça c'est très important, qu'il y a déjà eu un ouvrage Panorama sur la danse contemporaine. Et que cet ouvrage Panorama de la danse contemporaine a été un événement dans le milieu éditorial, a aussi participé à reconnaître la danse contemporaine. Et donc on espère que ce Panorama contemporain des arts du cirque va avoir le même rôle pour les arts du cirque, c'est-à-dire contribuer vraiment à la reconnaissance de cet art comme un art à part entière.
Il s'agit d'un panorama, bien sûr, et j'imagine, de compagnies aussi bien françaises qu'étrangères. C'est un panorama.
Tout à fait. Il y a des compagnies étrangères. C'était très important de montrer que le cirque aujourd'hui, il est international, il est aussi très européen. Et donc, ça ne se limite pas à la France. Il y a des compagnies étrangères. Il y a des compagnies de toutes les esthétiques, de toutes les formes. Il y a des compagnies très confirmées et puis il y a aussi un certain nombre de paris avec des jeunes compagnies. Donc on verra dans les années à venir si les paris seront relevés. Mais c'était important, voilà, de montrer la diversité du paysage, des esthétiques du cirque aujourd'hui. Parce que s'il y a eu une évolution majeure, on en parlait tout à l'heure aussi, du cirque ces 30 dernières années, c'est qu'on a aujourd'hui des formes de cirque, des types d'esthétiques qui vont à la fois de formes très conviviales, très grand public, qui donc sont dans la lignée du cirque dit traditionnel, et puis des démarches quasi expérimentales de recherche artistique, et c'est le grand écart. Mmh. Donc, pour s'y retrouver un petit peu dans ce grand écart aujourd'hui, c'est pas évident, ni pour les spectateurs, ni pour les journalistes, ni pour les gens du milieu culturel. Donc, ce panorama permet un certain nombre de repères, de clés de lecture à travers les projets artistiques des compagnies.
Il s'agit d'un panorama qui se... comment dire, qui est pour tout le monde. Enfin, il s'adresse aussi aux professionnels du cirque, qu'aux amateurs, ou même des gens qui connaissent pas du tout le cirque et qui veulent juste comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le cirque, comment ça marche, le cirque contemporain. Et est-ce qu'il est assez accessible à
tout à fait. En fait, il est. Alors, ceux qui sont curieux pourront venir le découvrir à 18h ce soir, puisque on va le présenter vraiment officiellement avec Pierre Hiverna à la Chambre de commerce et d'industrie. Et là, ils pourront voir que c'est un livre très agréable à lire, avec énormément d'illustrations et de photographies. Donc, il y a aussi une lecture par l'image. Et il y a un petit questionnaire, en fait, avec toujours les mêmes questions qui sont posées aux compagnies, qui leur permet un petit peu d'expliquer leur rapport au cirque, leur projet artistique. Donc, à la fois, il peut se feuilleter de compagnie à compagnie. Il y a une introduction qui présente le cirque aujourd'hui. Je pense qu'il est effectivement assez facile d'accès, qui s'adresse à tout le monde.
Votre revue Strada, vous êtes content elle marche, elle est bien distribuée, elle est lue, elle progresse, elle stagne. Quel est le bilan vous pouvez faire de votre revue qui existe depuis combien de temps, Strada ?
Alors, ça fait 4 ans et demi qu'on a lancé Strada. Et c'est vrai qu'on est assez content parce que c'est toujours un pari de lancer un magazine. Alors, c'est un choix de faire un magazine sur abonnement et qui s'achète en librairie. Par contre, on ne le trouve pas en kiosque. Ça serait une autre économie et un autre projet. Là, il s'agit vraiment de alors, sur orlesmurs.fr ou autre, on peut découvrir le magazine et si ça vous intéresse, effectivement, encore demander un numéro ou un abonnement. C'est vraiment un magazine qui nous tient à cœur parce que on défend une autre forme de culture, un état d'esprit dans la culture qui serait peut-être différent de celui qui est présenté dans toutes les institutions culturelles, et on n'a rien contre les institutions culturelles, mais il y a aussi un souffle artistique qui se passe ailleurs, dont le cirque fait partie, qui repose beaucoup sur un lien particulier avec la population, avec le public, et une certaine générosité des artistes à vraiment vouloir toucher la population et toute la population, même celle qui n'ose pas fréquenter un théâtre parce que c'est un petit peu intimidant de rentrer dans une salle de théâtre, etc. Donc voilà, c'est un magazine pour ce public-là, pour une nouvelle façon de voir la culture. Et c'est vrai qu'on est assez content de la fidélité des lecteurs, puisqu'on a 80% de réabonnements, et c'est vrai que
c'est un signe
intéressant. On a plus de 1500 abonnés payants, etc. Donc voilà, c'est un magazine qui a sa place. Bien sûr, on espérait qu'il soit encore plus diffusé, mais en tout cas, c'est une vraie passion de produire un magazine. C'est beaucoup de travail, mais on a des gratifications qui nous encouragent à continuer.
Oui.
Ben on va vous remercier d'avoir passé cette émission avec nous. Repréciser que ce soir, donc à 18h.
Donc, sur mon mode d'emploi, moi, c'est 18h.
C'est 18h, donc.
Chambre des commerces et de l'industrie, salle d'Aguin, derrière la maison Gascogne. Donc la présentation de l'ouvrage Panorama du cirque contemporain de Pierre Hiverna et de Véronique Klein, qui a l'air passionnant.
Voilà, préciser aussi que si vous voulez des renseignements complémentaires sur Hors les Murs, il y a un site internet, donc orslesmurs.fr. Est-on complet avec ces informations, Stéphane ?
Tout à fait. Et puis, si vous passez par Paris, puisqu'on est situé à Paris, vous pouvez aussi venir nous voir et prendre rendez-vous pour consulter notre centre de documentation médiathèque, où on peut trouver des ouvrages sur le cirque, des archives, visionner des vidéos de spectacles, etc. Enfin, on vous accueillera avec plaisir si vous êtes, comme beaucoup ici, des passionnés de cirque.
Et où on peut vous rencontrer à Paris ?
Alors, l'adresse qu'on trouve sur le site internet, c'est 68 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e, près de République.
Très bien, merci. On aura noté tout ça. On va poursuivre, Bertrand, cette émission avec...
Avec Hélène, que j'ai rencontrée l'autre jour à la dérobée. C'était dimanche matin, je prenais mon café et je vois cette dame s'agiter avec des billets et deux jeunes circassiens qui parlaient anglais. Et je me suis approché, j'ai échangé deux mots. Et en fait, il s'avérait qu'elle était francophone, enfin française, et immigrée en Australie, qui est passée par plein de pays comme ça, qui a une vision du cirque vraiment globale, passionnée, et qui est en fait chorégraphe de forme, on va dire, suspendue pour la compagnie Circa. Donc j'ai rencontré Hélène et on va écouter notre conversation. Julie.
Merci. Any of my tickets in your program? I don't trust you. Dimanche. Jeudi. Pop Circus. Ah, yeah, I got Pop Circus on Thursday as well. So
when should we
do? What I got to do is make sure I found this ticket that says Spectacle des Écoles. Enjoy your presidential suite. Bonjour.
Donc là, on est au Café de France à Hoche. Et vous connaissez bien Hoche ?
Ah non, pas du tout. Je connais pas mal la région, mais j'avais jamais eu l'occasion de m'arrêter à Hoche.
Si j'ai bien compris, vous avez entendu parler anglais. Vous venez pas d'à côté, non ?
Je parle anglais et français, puisque j'ai une double nationalité australienne et française.
Et vous discutiez avec un couple de jeunes anglais ? Ils étaient australiens ?
Non, c'était des Australiens. Et l'un d'eux est un Australien de cirque. L'un d'eux fait du cirque à l'école nationale en Australie. Et moi, je suis son... Enfin, j'enseigne et je fais des chorégraphies aériennes en Australie. Donc, ça a été une des personnes avec qui j'ai travaillé.
Ah oui, donc vous n'êtes vraiment pas d'à côté, vous venez de l'autre bout du monde.
En ce moment, je suis pas exactement à côté.
Et donc, il y a du cirque en Australie ?
Ah oui. Oui, en Australie, le cirque se développe. Vous avez la compagnie Circa, qui a travaillé au chapiteau de la cathédrale et qui travaille encore aujourd'hui, et que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il travaille avec une agilité et une esthétique qui est en fait, personnellement, je pense qu'il y a une tendance qui est en train de se développer dans le cirque, sur le plan mondial, à savoir la beauté du mouvement de cirque commence à se redépouiller de tout le langage qu'elle avait adopté.
On va vers un cirque contemporain, comme il y a une danse contemporaine ?
C'est un cirque contemporain, en effet, qui voyage dans le monde entier en ce moment, énormément, et qui va travailler en France de nouveau. Ils vont en Irlande, à Belfast, pendant une semaine, et ils vont retravailler en France, à Rungis, près de Paris, dans une dizaine de jours. Donc, ils voyagent énormément.
Et donc, vous êtes chorégraphe ?
Personnellement, oui, en aérien.
C'est-à-dire en aérien ?
En aérien, c'est tout ce qui ne touche pas le sol, c'est-à-dire le trapèze, les cordes. Personnellement, une de mes passions est la verticale, à savoir les formes très simples, comme la corde lisse. Et cet élève vient de faire une compétition en Italie avec un numéro de corde lisse. Donc, je travaille avec le cirque contemporain et aussi avec le cirque mélangé, c'est-à-dire le cirque comme les festivals Monte Carlo, Paris Cirque de Demain, où il y a toutes les formes de cirque se rencontrent. Cirque traditionnel de grande qualité et cirque contemporain de grande qualité. C'est très intéressant de voir les formes se rencontrer.
Je ne vous ai pas demandé votre nom.
C'est Hélène Imbling. Bon, je suis mariée avec un Canadien. Donc j'ai un nom d'origine anglaise maintenant. Mais j'ai appris en France à l'école du cirque à l'époque où il y avait l'école Fratellini et l'école Grusse à Paris. Donc je suis une ancienne.
Alors comment a évolué le cirque depuis que vous avez étudié dans cette école-là ?
À cette école, il y avait déjà des formes nouvelles quand on travaillait. Il y avait déjà Bartabas qui venait, qui nous parlait. Il y avait plusieurs groupes de cirque contemporains qui se développaient déjà. Et puis il y avait Mais il y avait ce phénomène des écoles de cirque qui débutaient, en fait, qui a ensuite suivi sur Montréal et qui maintenant, l'Australie a pris la 10 ans, 20 ans après, en fait, l'Australie a commencé à avoir une école nationale. Pour moi, c'était très intéressant parce que j'étais en France au début de ce phénomène et j'ai pu travailler en Australie au moment où l'école se crée. Donc, avec toute l'histoire de l'évolution du cirque à la suite de la création des écoles. Il se passe un phénomène de variété, enfin, il y a une grande variété des formes qui se développent en ce moment en Australie également et en grande partie du fait de la création de l'école.
Est-ce qu'on peut, comme vous avez fait plusieurs écoles dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, est-ce qu'il y a des spécificités nationales qu'on retrouve ?
Ah oui, absolument. Il y a le cirque qui, lui, est un monde en soi. Et en fait, qui se retrouve dans tous les pays du monde. Il y a des points communs, il y a des lieux communs, il y a des influences des influences qui vont dans des sens différents. Donc, il y a un peu un syndrome de... L'influence est souvent au départ un peu un syndrome, c'est-à-dire que quand les gens débutent, ils regardent et ont tendance à copier. Mais ensuite, ils trouvent leur propre individualité et apportent quelque chose de nouveau aux personnes qu'ils ont copiées au départ. Donc, il y a des phénomènes de cycle qui sont très, très intéressants à observer. Et j'ai trouvé cette fois que, justement, l'Australie est en train de trouver ses individualités et elles sont très fortes, alors qu'au départ, c'était assez hésitant, presque un complexe d'isolement. Et au Canada, j'y suis retournée récemment. Il y avait un festival à Montréal. Et il était très intéressant aussi de voir comme la forme cirque pur est en train de reprendre son dessus dans un contexte contemporain très riche, ceci dit. Donc, je trouve l'évolution en ce moment est très intéressante.
La boucle est bouclée un petit peu.
Pardon ?
La boucle est bouclée.
La boucle continue à évoluer. C'est pas une boucle qui se referme. C'est une boucle. C'est des cycles qui continuent à monter.
C'est des spirales.
Ça se referme pas. Ça évolue et ça évolue très bien en ce moment. C'est très intéressant.
Vous travaillez sur des formes comme ça de spirales sur les cordes.
J'adore les verticales simples, à savoir la corde. Mais bien sûr, maintenant, en corde contemporaine, on fait de la relâche, on fait des éléments qui viennent des arts martiaux, qui viennent des volants, qui viennent des formes indiennes de cordes. Ça devient très, très riche, là. Et je travaille aussi dans les ballons, maintenant, avec les trapèzes lestés et les longes. C'est vraiment de l'acrobatie pure en l'air. C'est très intéressant.
Donc oui, le cirque en plus se nourrit d'arts martiaux et de différentes disciplines.
Enfin, puisque maintenant des personnes de toutes les origines viennent faire du cirque. Et personnellement, tout de suite, j'essaie de savoir quel est leur passif. Et c'est leur passif et du plongeon, et un art martial, et de la danse, et des arts de la musique. Il y a toujours des rapports. Et l'intéressant, c'est de développer, d'utiliser des formes acrobatiques pures, mais de développer un style personnel pour l'artiste qui se nourrit de son passif. Et en fait, il y a des points communs artistiques et les points communs purement et simplement de la physique aérodynamique du corps. Donc c'est très intéressant.
Et sur la narration proprement dite, je sais que le cirque est en train de chercher ses formes de narration entre le théâtre, la musique, le langage du corps et le langage significatif, le rêve, la poésie. Tout ça, c'est en train de beaucoup bouger. Comment vous abordez ce point-là,
si vous l'abordez ? Personnellement, de ce point-là, j'ai un point de vue aussi. Personnellement, mon obsession, d'une certaine façon, c'est l'authenticité. Donc, si j'ai une personne qui est un vrai musicien, je vais rechercher, l'encourager à ce que la narration parte de la musique. Si la personne a un sens du théâtre, mais personnellement, il y a une chose que je communique aux personnes avec qui je travaille et ils le prennent avec, bien entendu, la liberté de le prendre ou de ne pas le prendre, de bien reconnaître qu'au départ, le cirque est un langage. Donc la narration, je trouve que dans le cirque contemporain, parfois, il y a une obsession qui fait croire aux gens d'une certaine façon que la narration est nécessaire pour s'exprimer. Personnellement, je leur dis attention, le cirque est un langage. Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire en langage de cirque. Souvent, il suffit d'y penser, comme la méthode Stanislavski en théâtre. Il suffit d'y penser en créant et il n'y a pas forcément besoin d'une narration verbale extérieure. Par contre, si la personne le veut ou si la personne est douée verbalement, d'accord. J'ai trouvé que souvent des spectacles des spectacles que j'ai vus étaient en fait alourdis par l'obsession d'un besoin de narration externe qui n'était pas forcément justifié. Donc, si elle est justifiée, et si un très bon parti pris, comme j'ai vu la fanfare nationale hier, visiblement, c'est des musiciens passionnés et adorables, là, d'accord. Mais s'ils n'avaient pas eu ce talent, ça n'aurait pas été nécessaire.
Ben, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, je vous remercie. Et puis, bon festival à vous.
C'est sur quelle radio?
C'est sur Radio Circa.
Tu fais mais c'est quelle... C'était 103.5. Mais c'est quoi 103.5?
Bah, si t'as une radio, tu mets la fréquence 103.5 et tu peux écouter Radio Circa.
Voilà, de retour en direct sur Radio Circa à la Maison Gascogne. Voilà, donc moi c'était vraiment une superbe rencontre et Hélène m'a vraiment beaucoup beaucoup plu, d'une justesse quand elle parle, et puis je pense que voilà qu'elle contribue beaucoup aux belles formes qu'on voit dans Circa. Fred, je crois que tu
voulais... Oui, on va prolonger justement avec la compagnie Circa qui était là en début de festival, et on va réécouter les artistes qui nous ont reçus dans leur chapiteau, et on discute avec José et avec Anna à la traduction du cirque contemporain en Australie.
Bonjour, nous sommes avec la compagnie Circa qui vient d'Australie. Nous sommes dans leur chapiteau, derrière le décor. La première question qu'on voulait vous poser, c'est nous présenter un petit peu votre compagnie, qui vient d'Australie.
So we're from Circa, which is based in Brisbane, in Australia. We are a 7-person ensemble. And we have been together as a 7-person ensemble since February of this year. Before that, Circa has been going for 5 years. Previous to that, it was called Rock and Roll Circus, and then it changed its name to Circa 5 years ago.
Donc c'est le cirque Circa de Brisbane. Ça regroupe 7 personnes. Et en fait, ce groupe s'est formé depuis le février de cette année, mais la compagnie existe déjà depuis 5 ans. Et avant, ça s'appelait Rock and Roll Circus, et maintenant ça s'appelle Circa.
Alors on connaît très peu le cirque de l'Océanie, c'est bien loin pour nous, alors que pour ces Australiens, le cirque, effectivement, le cirque actuel, cela existe depuis combien de temps?
I think because Australia is so far away, we have a unique style of circus. We're not so heavily influenced by European circus, so we tend to develop our own style.
Parce que l'Australie est loin de tout, on est un peu isolé, et du coup ça déclenche un style assez unique, loin des influences européennes aussi, et on joue beaucoup là-dessus, et on essaye de travailler là-dessus aussi.
Et là aujourd'hui, le spectacle de Circa, on a pu voir le vendredi, le samedi, les autres jours, alors les enfants sortir avec une banane, ça prend énormément, je veux dire, il y a un côté assez exceptionnel, effectivement, d'un cirque qu'on n'a pas l'habitude de voir, et puis il y a quand même un côté qui... ça fonctionne, quoi.
As a company, we try to break down what circus is, and within the acrobatics find the inner movement and the complexity of things, and not just do trick, 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 present, which generally, yeah, moves people, is our aim, I guess, to make people feel different things, different emotions.
En fait, c'est qu'on joue beaucoup sur les mouvements d'habitude habituels du cirque, et en même temps, on va dans cette complexité, dans cette différence, on les pousse jusqu'au bout, et c'est ça qui doit déclencher l'émotion chez les gens, en même temps que ça leur fait sentir qu'ils voient quelque chose d'exceptionnel.
We trust the circus to tell the story. We don't try and force another narrative through it. The story is very physical and it comes from the heart, so it's emotionally rich.
En même temps, on a vraiment confiance dans ce que c'est que le cirque, qu'est-ce que ça doit raconter, à la fois quelque chose de très physique et quelque chose qui vient du cœur. Et du coup, on est là-dedans. Donc on est vraiment aussi dans la narration, dans ce que veut raconter le cirque.
On dit quand même de votre compagnie, on le voit avec le spectacle que vous présentez ici, que quand même, vous travaillez beaucoup avec votre corps. Comment vous arrivez à articuler le corps et la narration?
When we create the shows that we do, we don't ever have a story in mind or a narrative throughout the show. It comes together with each performance is very different. So I guess every time we get on stage, our touch is very different to each other. Sometimes it's filled with love, sometimes it's filled with anger, but we never know what it will be until we're on stage.
En fait, à chaque fois qu'on fait le spectacle, c'est très différent. Au début, quand on travaille, on n'a pas de schéma narratif en tête. On invente un peu. Et après, à chaque spectacle, c'est très différent. Parfois, ça va être plus quelque chose d'amoureux, de tendre. Et parfois, ça va vraiment déclencher de la colère. Et voilà. Et ça, c'est très différent à chaque spectacle, chaque représentation.
Vous avez dit tout à l'heure que l'Australie était loin. Donc, c'était... Il y avait une différence entre le cirque en Australie et le cirque en Europe. Pour autant, quelles sont vos influences? Est-ce que vous pourrez caractériser vos influences?
There is an Australian culture, isn't there? You're not British, you're not American, it's different. It has its own kind of culture and character.
I think for our training, we have had a lot of Chinese and Russian influence for our skill. I guess there's two kind of main institutions or schools in Australia, which are the Flying Fruit Fly Circus, which is a children's circus.
The Flying Fruit Fly Circus,
which is a children's circus that has had a lot of Chinese influence.
Okay.
And then there is NICA, which is the university course. And I guess we have just a lot of people from... What do you reckon?
I'd say there's a huge mix of trainers. There's definitely a Chinese influence that originally has really amped the contemporary circus side of things. That there really was, you know, a lot of Chinese people came over and started to teach Australian people, and then now with NICA, the National Institute of Circus Arts, there is a lot of Russian. There's a lot of European trainers. People come. And stay there for years and teach, or people come for a short period and drop their skills in Australia, basically, and then people develop them and use them how we do.
En fait, oui, en effet, il y a surtout des influences peut-être chinoises et russes, surtout parce qu'il y a deux grandes écoles en Australie de cirque, une école pour les enfants et après une école plutôt universitaire. Et dans l'école pour enfants, The Flute Fly Circus, et c'est surtout des influences chinoises. Donc il y a des professeurs qui vont venir, qui vont rester un certain temps, qui vont donc enseigner, transmettre, etc. Et au niveau de l'université, c'est beaucoup d'influences russes et européennes aussi. Et ça, forcément, ça se ressent dans les spectacles et dans la façon dont le cirque contemporain, donc le nouveau cirque australien, prend forme.
Alors aujourd'hui, ils sont en Europe, ici à Hoche, dans le cadre du festival. Ils ont des projets européens, est-ce qu'ils sont là depuis un moment ou est-ce qu'ils ont prévu de tourner un petit peu en France et puis ailleurs dans d'autres pays?
So we have been in France for a month now, and we have another month of this tour left, where we will go to Ireland and Hungary. For us, we find the European audiences understand our work better than Australian audiences, so we love coming over here and giving our work to the European audiences, and yes, of course, I'd love to collaborate with anyone that wants to collaborate. It's always an amazing thing to do, and to learn different things from each other and share skills and things.
Donc on est en France depuis un mois. Il nous reste encore un mois en France, et après on continue la tournée en Irlande et en Hongrie. En fait, on adore le public européen parce qu'ils nous comprennent très bien et mieux que le public australien. Donc c'est toujours très très agréable et on aimerait énormément pouvoir travailler avec n'importe qui ici qui aimerait travailler avec nous.
Et justement aujourd'hui, ce public australien est-il ouvert? Est-ce que c'est possible pour une compagnie qui viendrait de France, d'Espagne ou d'ailleurs pour donner des représentations en Australie?
I think Australian audiences... Australia is more of a sporting culture. Theatre or performance is still quite young because Australia is still quite young. But over here there is much more of a rich understanding of the performance arts. If a French or any company comes to Australia, they do get audiences and people love and respect it. But it's just Australia is still very young in our theatre culture.
C'est vrai que l'Australie a une culture sportive très importante, et ça, du coup, pour le cirque, ça marche plutôt bien. Après, l'Australie, c'est une culture aussi, un pays qui est jeune, et du coup, le rapport à la culture, au théâtre, etc., il est aussi assez jeune, alors qu'ici, c'est beaucoup plus ancré, ça a plus un sens historique plus important. Et voilà, c'est aussi pour ça que ça marche ici. Cependant, en Australie, ils seront aussi très bien accueillis. Les gens vont beaucoup aimer. Il y aura beaucoup de respect et d'admiration. Et le public sera là aussi, évidemment.
Une question que je voulais vous poser au début. Vous êtes la compagnie Circa, ici, dans un festival qui s'appelle Circa. Comment vous avez trouvé ce nom?
I actually have no idea where the name comes from. The artistic director, Yaron Lifshitz, decided to call it Circa 5 years ago, but I actually have no idea what his thinking behind it was. I just, have never really asked him.
The name of the show and the name of the festival, there's no link in Yaron's mind. It was just a thing that happened. And the show is also called Circa. So we are the company Circa, doing Circa at Circa.
En fait, j'ai aucune idée de pourquoi la compagnie s'appelle Circa. Ça a juste changé comme ça. C'est le directeur qui a décidé. Je lui ai jamais demandé, donc je sais pas vraiment. Par contre, c'est très rigolo. C'est vraiment une pure coïncidence que le spectacle s'appelle Circa, que la compagnie s'appelle Circa et qu'ils jouent au festival Circa.
Peut-être la venue pour eux ici, c'est surtout également, ça peut être un tournant.
Oh, we would love that to be a turning point. And from the reactions of the audience yesterday and today with the standing ovations and the encores, it makes us feel so good and feel like there is, you know, there's something coming. There's a big thing coming for us, which is extremely exciting. And we want to come back as many times as we can and travel the world and move people with our work.
Oui, j'aimerais beaucoup que ce soit, on aimerait tous beaucoup que ce soit un tournant. Et comme au vu de ce qui s'est passé ces deux derniers soirs, avec les standing ovations, tout le monde qui se lève, l'accueil, ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup bouleversés. Surtout, ça nous encourage à continuer. Et on a très envie de revenir le plus possible et continuer d'émouvoir le monde avec ce qu'on fait.
Et avant de venir ici, quel regard vous aviez sur ce festival Circa?
For us, because we know that this is a circus festival, we knew that it would be a crowd full of circus people. So, you know, that made us quite nervous because they will look at the technique of our things. And so we didn't actually know what to expect. And then when they stood and cheered at the end, it was just, everyone was amazed and just loved that feeling that we got. And just so happy to be here and to be able to share what we're doing with the circus community. And let them know that Australia has a lot to offer.
En fait, en venant ici, on savait qu'on avait affaire à un public assez exigeant, le public qui connaît le cirque, qui vient pour voir du cirque. Du coup, on était très stressés par rapport à faire bien toute la technique. Et c'était assez. Mais en même temps, on savait pas à quoi s'attendre, quoi. Du coup, quand hier et avant-hier, le public s'est levé, qu'on a eu cet accueil, ça nous a énormément émus, énormément touchés. Et du coup, ça nous a donné. Enfin, on était très très heureux d'être là et ça nous a beaucoup rassurés et ça nous a permis aussi de dire à tout le monde que le cirque australien a beaucoup de choses à offrir et beaucoup de choses à montrer au monde. Et voilà, et c'était juste un sentiment magnifique hier d'être sur scène et de recevoir tout ça du public.
On va remercier Anna qui a assuré la traduction de l'interview. Et comme forme de remerciement, j'espère que ce n'est pas un piège, je te propose de poser la dernière question de cette interview.
En français d'abord.
En français d'abord.
En fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce spectacle, c'est aussi les regards qui existaient et qui faisaient vous exister les uns les autres. En dehors de tout ce qui était physique, etc., juste des regards tellement précis, tellement intenses, qui permettaient une espèce d'osmose incroyable. Okay.
I was just yesterday. I was very, very touched and surprised by the way you share looks and you look at each other all the time, and the way you see the other is very communicative and. It's very present, it's all the time. You never look at your feet or look. It's very dense, very intense, the way you are together on stage. So, I don't know, I think we are very close, I think, and we are a very intense group of people, and we enjoy our time on stage, and we know that it's very special, and so we work on making sure that all our relationships on stage are different every time, but great. And yes, it's an important part of the company to have emotional contact with the performers as well as the audience.
En fait, on est une compagnie, on est tous très proches, on s'apprécie énormément et on est très soucieux que ça se ressente sur scène toujours, de façon très différente, mais qu'il y ait toujours cette intensité qu'on a envie aussi de communiquer avec le public. Mais c'est quelque chose qui est aussi très caractéristique de cette compagnie, qu'on soit tous très proches et qu'on fasse toujours très attention les uns aux autres.
On vous remercie puisqu'on nous a donné comme instruction de terminer à moins 5. On a déjà dépassé de quelques petites minutes. Merci du temps que vous nous avez accordé et merci pour le spectacle que vous proposez ici à Circa.
Thank you for your time. Thank you very much. Thank you for the show that you're presenting now in Circa, because it's amazing and it's a great moment. And so thank you for your time.
Thank you very much.
Thank you.
Merci.
Et voilà, c'était donc la compagnie Circa qui a proposé un spectacle qui restera dans les mémoires de beaucoup. On va continuer cet après-midi, début d'après-midi, avec Un jour, une école, et on part dans quelques secondes en Suède.